le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Eh bien, bonjour à toutes et tous sur l'émission Grain de sable, animée aujourd'hui par moi-même et surtout à la technique par Combor, que je remercie d'être présent. Je rappelle que Combor fait une émission le jeudi de 13h à 14h. Donc c'est lui qui assurera la technique aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Grain de sable accueille l'association GLAS. J'en suis ravie. Nous vous avions déjà accueilli en novembre 2017. Donc, depuis novembre 2017, je suppose qu'il y a eu des évolutions en bien, en mal. Enfin, vous nous expliquerez tout ça. Donc, aujourd'hui, pour nous parler de l'association GLAS, il y a Berthe. Bonjour Berthe.
Bonjour.
Et Henri. Bonjour Henri.
Bonjour à tout le monde.
Voilà. Donc, qui nous présente l'association GLAS ? Berthe.
Oui. Alors, l'association GLAS, déjà peut-être dire pourquoi existe cette association-là. Eh bien, essentiellement, pour dire qu'aujourd'hui encore, des enfants ne bénéficient pas de la scolarité, alors que c'est un droit. Un droit à la scolarisation qui, pour l'instant, ne couvre pas les besoins chez tous les enfants. L'association est créée depuis 2006 et on s'aperçoit qu'on a toujours beaucoup de travail dans ce domaine-là. Faire en sorte que les enfants aillent jusqu'à l'école, ils soient inscrits, puissent continuer la scolarisation au gré des semaines, des mois et des années.
Préciser, il s'agit d'enfants qui vivent dans l'extrême précarité, c'est-à-dire qui vivent soit à la rue, sous des tentes, dans des voitures, dans des caravanes, sous un pont, etc.
Oui, parce qu'on peut rappeler peut-être que GLAS, association GLAS, GLAS est un sigle qui, il y a un petit jeu de mots derrière tout ça, mais on peut peut-être le développer.
Oui, au départ c'était un collectif, donc on a gardé le C de collectif lyonnais pour l'accès à la scolarisation et le soutien aux enfants des squats. Comme vous entendez, ce sont les enfants des squats, mais plus que ça encore, beaucoup d'enfants ne sont pas visibles et pour autant, ils existent. Et leur droit à la scolarisation est à respecter.
Juste quelques éléments chiffrés, juste pour situer le nombre d'enfants que l'on suit. Sur ces dernières années, en général, classe est en contact avec de l'ordre de 300 enfants. Sur ces 300 enfants, environ 275 cette année ont été scolarisés dans 77 établissements différents, ce qui montre un peu la couverture, puisqu'en plus, ça couvre 26 communes ou quelque chose comme ça, sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise.
Donc ce nombre de 300 enfants suivis, c'est un chiffre un peu constant, ou il y a des années où ça varie, on a plus, il y en a moins. Puis je suppose que dans ces 300, ce sont des enfants qui peuvent être suivis sur plusieurs années.
Oui, tout à fait. Disons que le nombre de 300, c'est à peu près stable depuis 2 ans. Mais c'est vrai que cette couverture de 300 couvre des enfants de profils différents, si on peut dire. Il y a un certain nombre qui vivent donc dans l'extrême précarité, que l'on rencontre chaque jour, pas plus tard qu'hier, j'en ai rencontré encore, qui n'étaient pas scolarisés, qui seront scolarisés peut-être à la rentrée, s'ils continuent à être là où ils vivent. Ça couvre aussi des enfants qui ont été scolarisés depuis quelques années. Certains enfants, on les suit depuis le début de la création de classe, c'est il y a 13 ans, en 2006. En général, ces enfants ont trouvé de quoi, enfin, leurs familles ont trouvé de quoi être hébergés, donc sont en appartement. Mais le fait d'être en appartement, dans certains cas, c'est toujours difficile de pouvoir avoir accès aux droits. Quand on est français, c'est pas toujours simple de remplir les documents, c'est pas toujours simple de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc ces familles, souvent, ont encore des difficultés. Elles sont plus ou moins bien accompagnées par des travailleurs sociaux, en général bien accompagnées, mais ça ne suffit pas toujours. Et il se trouve que régulièrement, des familles qu'on a perdues de vue nous appellent, elles ont gardé encore un numéro de téléphone, pour un conseil, pour je ne sais quoi. Ces enfants que l'on voit exceptionnellement juste pour un conseil ne font plus partie de nos statistiques, mais simplement pour dire qu'à l'intérieur de ces statistiques, quelques familles sont depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans plus vraiment suivies, mais quand même un petit peu pour différentes démarches.
Cela prouve que finalement ces familles vous font confiance, parce que si elles vous rappellent ne serait-ce que pour un conseil, ça veut dire que tout l'accompagnement que vous aviez effectué auparavant, avant leur mise en dur, enfin, leur, grâce, enfin lorsqu'ils ont pu accéder à un logement dur, mais ça prouve quand même qu'elles vous font vraiment confiance et qu'elles gardent donc, on va dire, un bon souvenir aussi affectif hein, de cet accompagnement.
Oui, tout à fait. J'ai envie de rebondir là-dessus pour dire combien ces familles, pour la plupart d'entre elles, arrivent sur le territoire français, et notamment donc à Lyon, dans l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Donc, ils arrivent, ils connaissent la première des choses, c'est la grande précarité et l'absence de visibilité des services publics, des pouvoirs publics. Néanmoins, notre action nous permet en premier lieu d'aller au plus près de là où ils sont. S'ils sont dans des caravanes ou bien dans un bidonville caché derrière des arbres, ben pour autant, nous, notre première mission, c'est d'aller les rencontrer. Et de cette rencontre, peut-être naît quelque chose de l'ordre de la confiance, pour peu qu'on sache respecter qui ils sont, leurs besoins et leurs espérances.
Oui, et ça me faisait penser que... Parce que là, je rebondissais à ce que venait de dire Henri sur finalement, dans ces chiffres, dans ces, tous ces, le chiffre que nous a donné au départ, là, 300 à peu près enfants, correspond qu'à, en fait, aux enfants qui sont suivis pour la scolarisation. Mais tous les autres qui sont accompagnés pour un conseil de temps à autre ne sont pas forcément dans ces chiffres, mais ça prouve bien qui a eu une relation de confiance qui va au-delà, je pense, quand même que de l'aide matérielle, administrative. C'est qu'il y a une vraie relation de confiance.
Oui, enfin, tout à fait. Effectivement, on parle de ces enfants qui vont à l'école ou qui sont en passe d'aller à l'école. Effectivement, en plus des enfants scolarisables en âge scolaire, on accompagne les familles dans leur globalité. Ne serait-ce que tout récemment, une famille avec un enfant scolarisé de 7 ans, la maman a accouché et s'est retrouvée à la rue à la sortie de l'hôpital. Donc on a lancé un certain nombre de démarches pour aider cette famille à pouvoir être hébergée. Elle a pu être hébergée pendant une vingtaine de jours, elle s'est retrouvée à nouveau à la rue et on a continué. Elle est actuellement hébergée, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc effectivement, il y a le travail de base qui est le travail scolaire, mais on ne peut pas ne pas aller au-delà, c'est-à-dire prendre en charge la globalité de la famille, même si pour nous c'est relativement complexe.
Oui, c'est très important ce que tu soulignes là, Henri, parce que une famille, quand bien même elle veut voir ses enfants scolarisés régulièrement, pour ces familles en extrême précarité, une fois de plus, on est bien obligé de le dire parce que nous, on le voit trop. Hein, pour ne pas le dire. Par conséquent, pour ces familles qui sont dans une extrême précarité, ben, la naissance d'un enfant, ça met tout à fait à mal la scolarisation de cet enfant de 7 ans. De la même manière que des enfants en plein hiver, s'ils ne sont pas habillés avec des vêtements propres, suffisamment propres, qui n'ont pas eu le temps de sécher, ben, ils ne vont pas à l'école. Donc il y a tout un travail, au-delà même de l'accompagnement vers l'école et pour l'école, il y a tout un travail qu'on prend à bras-le-corps, de façon à ce que la scolarisation de chacun d'entre eux puisse être la plus porteuse possible. Voilà, donc par conséquent, voilà, on est amené à aider la maman qui accouche et qui se retrouve dehors, et il faut que cette situation-là soit prise en considération, sinon c'est l'enfant qui n'ira pas à l'école.
Donc, en fait, les bénévoles, parce que il faut quand même qu'on dise que vous êtes des bénévoles. Hein, les actions portées par l'association CLAS sont portées par des bénévoles, donc des personnes qui donnent de leur temps pour accompagner ces familles. Donc, l'action de l'association CLAS ne s'arrête pas à la porte de l'école une fois que le gamin ou la gamine est inscrit.
Tout à fait. Effectivement, le démarrage, ce sera l'école souvent. Mais c'est tout ce qui va autour, c'est-à-dire pour aller à l'école, parfois il faut la domiciliation, c'est-à-dire avoir une adresse. Il faut rencontrer une assistante sociale de différentes structures pour pouvoir avoir une aide au niveau conseil familial, au niveau aide alimentaire. Il faut rencontrer l'assistante sociale de l'école ou du collège quand il y en a une. Il faut rencontrer... par exemple, aller au Resto du Cœur, indiquer où est-ce qu'il faut aller, quels sont les horaires, etc. Enfin, il y a un grand nombre d'activités qui demandent des démarches. Depuis quelques années, il y a aussi, pour certaines familles qui ont accès au travail, je pense aux familles européennes, les accompagner aussi à Pôle emploi, dans certains cas, même si ce n'est pas notre cœur de métier. Ça permet de leur permettre d'accéder au travail, et qui dit le travail dit ensuite l'accès aux droits sur le logement. En général, une fois qu'il y a du travail, on arrive au logement, et ça permet aux familles d'avancer dans la vie et aux enfants d'être scolarisés de façon un peu plus stable, parce que effectivement, tant qu'elles sont pas dans un appartement, il y a la difficulté du lieu de vie. On ne sait pas si le lendemain on va être là où on vit, parce qu'on ne sait pas si on va être expulsé, pas expulsé, on ne sait pas ce que va devenir le lendemain.
Donc le fondamental pour l'association CLAS, c'est bien le droit à la scolarisation pour tout enfant. Mais ça va au-delà, finalement, puisque vous êtes bien obligé de prendre en compte l'environnement global de l'enfant, donc y compris de sa famille, parce qu'il est rarement tout seul. Du repérage de ses enfants jusqu'à l'inscription, c'est-à-dire accompagner ses familles, parce que c'est difficile quelquefois pour les enfants, pour ces familles, d'avoir une inscription dans les écoles. Vous allez en parler, des difficultés que vous rencontrez en termes administratifs. Repérage des enfants, accompagnement des familles pour l'inscription de ces enfants, et ensuite le suivi de cette scolarisation, y compris quand les enfants changent de lieu de vie. Il faut aussi les accompagner pour qu'ils puissent rester dans l'environnement, dans l'école où ils ont été inscrits. Je pense que c'est important, l'idée de que l'inscription soit pérenne dans une institution donnée. Je pense que c'est mieux peut-être pour l'équilibre. Je n'en sais rien, je dis ça comme ça, mais pour l'enfant. On est bien d'accord. Vous faites tout ça, repérage, inscription, suivi. Et donc, vous êtes, des lanceurs d'alerte pour des situations sociales complètement difficiles.
Oui, tout à fait. Il y a effectivement il y a l'environnement de la famille qui fait que plus de stabilité vers un appartement, etc., sera favorable à une scolarisation suffisamment porteuse, positive. Et puis, ce qu'on voit sur Lyon actuellement, parce que là on parle des appartements, quand une famille accède peut-être à un travail, donc après effectivement débouche la possibilité d'avoir un appartement. Mais avant tout ça, il ne faut pas oublier que ce sont des expulsions souvent renouvelées au cours d'une seule même année. Donc, inscrire un enfant à une école, dans un lieu, dans un endroit au plus près de là où il vit, c'est pas forcément donné que pendant la même année, l'enfant soit pas expulsé avec la famille, et donc après à une heure de route ou de bus de l'école ou là où il est inscrit. C'est un petit peu compliqué, le parcours d'un enfant en scolarisation dans ces conditions-là.
Oui, un exemple tout à fait. Une famille cette année a eu plus de 10 lieux de vie à l'intérieur de Lyon, voire à l'extérieur, puisqu'elle est allée de mémoire vers Vénissieux, soit par expulsion, soit par hébergement dans le cadre du plan froid. Effectivement, pour un certain nombre de familles, en hiver, les familles peuvent être hébergées dans le cadre du plan froid. Mais pour la scolarisation, en général, comment dire, les familles ne sont pas vraiment, enfin, les enfants ne sont pas pris en compte dans leur scolarisation. Quand elles sont hébergées, elles peuvent aller, étant domiciliées, enfin, étant scolarisées, par exemple, dans Lyon 1er, près de l'hôtel de ville, eh ben, elles vont être hébergées à Vénissieux, elles vont être hébergées à Oulin, elles vont être hébergées on ne sait où, voire à la fin du plan froid, quelques exemples, on a eu des familles qui avaient été hébergées à Villeurbanne, proches pour une fois de leur lieu de scolarisation, et à la fin du plan froid, ces familles, on leur a dit, ce soir vous avez plus d'hébergement, vous appelez le 115 et vous aurez peut-être un autre hébergement. Donc elles ont appelé le 115, et je connais des familles qui étaient à Villeurbanne, elles ont été envoyées à Vénissieux. Donc la scolarisation de l'enfant à Villeurbanne, quand c'est en élémentaire, c'est très difficile pour les parents, étant à Vénissieux, de faire deux allers-retours pour pouvoir accompagner le matin l'enfant à l'école et revenir le chercher le soir. Donc ça met en péril la scolarisation et la difficulté de l'assiduité. C'est malheureusement quelque chose qu'on essaye de faire remonter, mais pour le moment on n'a pas beaucoup d'écho sur ces difficultés. À cela s'ajoute une autre difficulté importante, c'est le transport. Actuellement, en dehors de Lyon, où il y a ce qui s'appelle l'aide à l'intégration scolaire, qui permet pour toutes les familles en précarité, avec des critères, quelle que soit l'origine française, étrangère, des critères de ressources, peuvent bénéficier de l'aide à l'intégration scolaire, c'est-à-dire les transports en commun sont pris en charge, la cantine est prise en charge, et il y a même un petit peu de fourniture scolaire. Malheureusement, ce n'est valable que dans Lyon, à l'intérieur de Lyon Intramuros. Pour les familles à l'extérieur de Lyon, il n'y a rien qui est prévu. Certaines mairies acceptent de faire un tarif réduit pour la cantine, mais il n'y a pas de prise en compte à 100% de la cantine. Donc certaines familles ne peuvent rien payer, donc si elles sont très loin de l'école, peut-être qu'ils viendront le matin et repartiront à midi, ils ne reviendront pas l'après-midi, ou ce sera l'après-midi, etc. Donc il y a une difficulté, et là on lance un appel pour que nos hommes politiques réfléchissent à peine. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour pouvoir prendre en charge les transports en commun pour les enfants qui sont dans la précarité. Ça serait la moindre des choses que d'arriver à cette prise en charge. Alors Classe, effectivement, essaye de prendre en charge ces transports, mais Classe ne reçoit aucune subvention et uniquement les dons des personnes. Donc on n'a pas des finances importantes, on ne peut prendre en charge qu'à minima.
Henri, mais cette aide que tu appelles l'aide à l'intégration, c'est un droit national. Enfin, c'est quelque chose de réglementaire ou c'est simplement la ville de Lyon qui a mis en place cette aide.
C'est la ville de Lyon qui a mis en place cette aide.
D'accord.
Par contre, effectivement, quand on parle de scolarisation, souvent on dit que si les enfants si les familles ont des difficultés pour prendre en charge la cantine, les transports, il devrait exister une aide. Et c'est cette aide qui devrait être généralisée et ne pas rester que très ponctuelle.
Parce que la scolarisation, donc, la scolarité, enfin, c'est un droit pour l'enfance. On peut dire que c'est un droit.
Mais quelles sont les obligations ? C'est écrit dans la loi.
Voilà. Mais quelles sont les obligations lorsqu'une famille. Alors, on va peut-être parler un peu du profil des familles, parce que, enfin, légèrement, puisque j'ai compris quand même en venant à votre Assemblée Générale lundi qu'il y avait des évolutions dans l'origine. Des familles, et donc il n'y avait pas tout à fait les mêmes types de, sans doute, de problèmes. Mais quelle est l'obligation, pour le gouvernement, la région, le conseil départemental ou la mairie, lorsqu'il y a sur son territoire des familles avec des enfants, est-ce qu'il n'y a pas une obligation de les scolariser ?
La scolarisation, c'est un droit.
C'est une obligation aussi, d'accord. Après, de cet endroit-là jusqu'à la réalisation de ce droit et de cette obligation, parce que c'est donc dans les deux sens, on va dire aux parents, vos enfants doivent être à l'école. Ça, c'est déjà été entendu, ou si on ne l'a pas entendu, on le sait. D'accord. Donc, entre ce droit, cette obligation et la réalisation, y a un grand écart à faire. Parce qu'effectivement, là, on parle d'enfants qui peuvent être en CP, hein, et qui ont plus d'une heure de bus à faire. Bon, pour peu qu'il y ait plusieurs enfants, les parents sont pas forcément à même de se partager en trois pour accompagner les trois enfants. Hein. Donc voilà. Donc il y a toujours dans l'environnement de cette scolarisation des choses qui sont à prendre en compte. Du coup, la cantine, c'est ce qu'on dit. Si la cantine, elle est pas payée, la famille, elle mettra pas les enfants à la cantine. Et s'ils sont pas à la cantine, c'est que ils reviennent à la moitié de la journée. Donc entre l'obligation d'une chose et la réalisation de cette même chose, eh bien, c'est là où nous, on essaie de faire les médiateurs auprès des responsables politiques, des personnels concernés, au niveau des politiques du gouvernement, ou du moins à Lyon, au niveau de Lyon.
Et s'il y a refus de scolarité, de scolarisation d'une commune, par exemple, il y a des moyens de recours ?
Oui, tout à fait. Enfin, ces dernières années, il y avait souvent une commune sur l'agglomération qui refusait la scolarisation. Alors, effectivement, c'est complètement illégal. Quand on n'y arrive pas, quand il y a un refus, un blocage, on fait intervenir par exemple le défenseur des droits, et il y a eu plusieurs décisions du défenseur des droits qui condamnaient, en particulier, on en a reçu une il y a un peu plus d'un an, qui condamnait à la fois la commune, qui condamnait le préfet, parce que le préfet doit vérifier que les enfants sont scolarisés, et qui condamnait l'inspection académique parce que les enfants n'étaient pas scolarisés. Donc, effectivement, il y a une possibilité de faire intervenir pour que les enfants soient scolarisés. Le bémol, c'est que le défenseur des droits, lui, ne peut pas réagir rapidement, et sa décision arrive plutôt un an après, enfin, la décision officielle. Effectivement, entre-temps, on essaye de pouvoir scolariser l'enfant en insistant dans la commune avant que la décision arrive, voire dans une commune voisine, parce que souvent ces familles, comme on l'expliquait, peuvent être expulsées, donc vont changer de commune, et on va pouvoir les scolariser dans un autre établissement. Sur ce problème de droit, je voudrais quand même intervenir. Effectivement, dans certains cas, le droit n'est pas appliqué par l'administration. Donc il y a eu quelques communes qui ont refusé. Cette année, on n'a pas eu vraiment de communes qui ont refusé. Par contre, des prétextes pour retarder une inscription, comme exiger un certificat de vaccination, alors que ce n'est pas obligatoire. On a 3 mois pour pouvoir présenter ce certificat de vaccination. Et un autre point quand même important, c'est la non-scolarisation, pas au niveau du primaire, mais au niveau des collèges, voire des lycées. Depuis plusieurs années, malheureusement, il n'y a pas assez de place au niveau des collèges, au niveau des lycées, et les enfants ne sont pas scolarisés. C'est pas les parents qui refusent, mais c'est l'administration qui met des mois pour scolariser un enfant, ce qui est complètement illégal. Et cette fin d'année, on sait qu'il y a de l'ordre de entre 80 et 100 enfants qui devraient être scolarisés et qui ne sont pas scolarisés. Un exemple, un des enfants a été testé, donc officiellement inscrit, testé pour connaître son niveau le 9 avril. Aujourd'hui, j'ai eu encore confirmation qu'il n'avait pas de place et qu'il aurait peut-être, enfin, on m'a dit qu'il aurait une place en septembre, mais...
Dans un collège.
Dans un collège. D'accord. Et de même, dans les lycées, il y a un certain nombre d'enfants. Sur le chiffre de 80 à 100, en fait, l'association classe est assez partiellement concernée, parce qu'il s'agit surtout d'enfants, les MNA, les mineurs non accompagnés, donc des enfants qui sont arrivés en France sans parents, seuls, Et ces enfants sont plus suivis par d'autres structures que l'association classe. Et donc, on est en lien avec ces associations, on travaille en commun, mais ce n'est pas nous qui nous chargeons de les accompagner dans la scolarisation. Normalement, c'est la métropole qui devrait faire ça, qui le fait en partie, et certaines associations qui se sont montées justement pour aider les enfants qui n'étaient pas suivis par les structures de la métropole.
Oui, parce que ça, c'est de la compétence, on va dire, de la métropole sur son territoire et du Conseil général du Rhône sur l'autre territoire. Voilà. Je vous propose une pause musicale et on repart sur l'association classe.
Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. On dit messieurs sur le rivage, sombre, douille et vert de rage, bandit, voyou, voleur, strapon, rejoindras-tu le continent?
Au-dessus de l'île, on voit des oies. Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Essayez. Donc, on bord, quel était ce choix musical que tu nous as
Mix, voilà, avec la première chanson du Temps des Gitans. Et puis, à l'instant, une chanson de Jacques Prévert, interprétée par les frères Jacques. Les méchants enfants. Ah.
Et comment les repérez-vous, ces méchants enfants?
Ces méchants enfants, comment les repère-t-on? Eh bien, dans le paysage lyonnais, mais je pense qu'au niveau de la France, dans son hexagone, c'est un petit peu semblable. Le paysage évolue à ce niveau-là. Pendant de nombreuses années, jusqu'il y a environ 2 ans, un peu moins, c'était essentiellement des gros bidonvilles. Donc, que ce soit l'habitant lambda ou nous qui sommes plus intéressés à cette question de l'accompagnement des enfants jusqu'à la scolarisation, eh bien nous, on repérait ces bidonvilles, et puis avec nos bottes et notre bâton de pèlerin, eh bien on s'approchait de ce bidonville, puis on y rentrait. Et puis rencontrer des familles, et puis ces familles soit évoquaient tout de suite leur besoin de scolariser les enfants, ou bien c'était plus des familles qui voyaient les autres enfants scolarisés et qui eux-mêmes parvenaient à émettre le besoin de scolariser leurs enfants. Donc ça, c'était dans les grands bidonvilles, c'est 200, 250 personnes, voire plus. Les bidonvilles ont progressivement disparu, certainement liés avec la loi logement d'abord, qui a mis sur la question une alternative à ces bidonvilles. Et maintenant, repérer les enfants, ça devient de plus en plus difficile, délicat. Les familles sont de plus en plus cachées, on va le dire, hein. Cachées dans des voitures, cachées dans des squats, mais des petites structures, et puis tu pourras en parler un peu plus, oui. Parce que
oui, effectivement il y a eu une évolution d'une part des lieux de vie, puisque le gouvernement a souhaité éradiquer, comme il dit, les bidonvilles. Donc ça veut dire que les familles, elles existent toujours, un certain nombre effectivement ont été hébergés. C'est positif et on peut le souligner, mais un certain nombre d'autres n'ont pas été hébergés et sont obligés de survivre. Comme le gouvernement ne souhaite pas que des bidonvilles réapparaissent, les familles, dès qu'elles s'installent quelque part, souvent elles sont pourchassées, elles sont obligées de se cacher de plus en plus dans les interstices de la société, les coins les plus improbables. Et effectivement, c'est pas toujours simple de les repérer. Classe existant depuis 13 ans, finalement, est assez connue par un certain nombre de familles. Et il se trouve qu'assez régulièrement, ces familles s'entraident, savent que nous existons. Quand une nouvelle famille arrive, on nous appelle en nous disant qu'il y a une famille qui vient d'arriver et qu'elle est à tel endroit, qu'elle aurait besoin qu'on les aide pour la scolarisation. Donc c'est une des premières possibilités. Une autre possibilité, on connaît un petit peu les lieux de vie, donc on y passe et puis on découvre qu'effectivement sur un lieu qui est plus ou moins connu, il y a des familles qui viennent d'arriver. Ça peut être aussi des personnes, des citoyen qui constate qu'il y a une famille avec des enfants qui essaye de trouver qui contacter. Et effectivement, on a des personnes que l'on ne connaît pas du tout, qui nous appellent, qui ont trouvé nos coordonnées, soit par Internet, soit même par certaines structures officielles qui donnent nos coordonnées. Ensuite, comment dire oui, je crois que c'est
médecin,
à peu près...
Médecins du Monde, oui, maisons de la métropole, certaines assistantes sociales nous contactent en disant, ben voilà, dans notre bureau, on a une famille, il y aurait des enfants à scolariser. Hein. Médecins du Monde, Resto du Cœur aussi nous contactent. Et
donc, il y a un travail quasiment réseau là, entre organismes, associations, Restos du Cœur, Médecins du Monde, enfin des structures qui sont sur le terrain. Donc, n'hésite pas à vous contacter. Ouais. Et est-ce que l'administration, quelquefois, vous contacte aussi?
Ça peut arriver que...
Non, c'est plutôt les associations.
Ça peut arriver quand même, mais c'est pas très souvent.
Une des raisons pour lesquelles, par exemple, Médecins du Monde pourrait relayer une proposition d'action, c'est que Médecins du Monde se déplace sur les lieux de vie précaires, comme ça. Les maisons des métropoles, bah, parce qu'ils ont les familles là. Resto du Cœur, bah, on travaille quand même en lien avec eux. On a besoin de partenaires hein, pour ce travail qui est énorme.
Hein. Non, je disais l'administration, parce qu'on pourrait imaginer que, comme vous avez la confiance de ces familles, et puis que quelquefois peut-être l'accueil même soit en mairie ou dans l'école peut être le premier accueil un peu difficile, un peu délicat parce que ces familles elles sont peut-être aussi un peu perdues, et ben que l'administration juge que finalement classe peut être une sorte d'intermédiaire, de médiateur. C'est pour ça que je disais, mais c'est pas vraiment ça.
Pas vraiment, non, je pense pas.
C'est pas vraiment ça, je pense pas qu'on l'ait réellement bien constaté. C'est vraiment ballot ce que je vais vous dire, mais
non.
avec des familles qui ne maîtrisent pas la langue française comme langue de dialogue avec tout intervenant, hein, que ce soit moi je sais pas un enseignant, une assistante sociale, etc. Eh bien, il se trouve que dans l'absence d'une langue commune, beaucoup d'interlocuteurs baissent les bras. Hein. Et puisqu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre ou n'arrivent pas à comprendre et à dialoguer, à communiquer avec ces familles qui ne maîtrisent pas la langue française.
Qui ne maîtrisent pas la langue française.
Ça peut paraître désarmant et dans la réalité des choses, on s'aperçoit que ça désarme. Hein.
Et comment vous procédez? Vous demandez peut-être à d'autres personnes de vous aider?
Oui, effectivement, c'est variable. Autrefois, quand il y avait des bidonvilles relativement importants, on trouvait toujours à l'intérieur de ce bidonville une personne qui parlait un petit peu français, qui servait d'interprète. Maintenant que les familles sont plus dispersées, ça devient un petit peu plus difficile. D'autant plus, on a un petit peu abordé le sujet, c'est qu'il y a une évolution des populations que l'on côtoie. Historiquement, et c'était simplement un constat, on avait surtout des familles d'origine roumaine, quelques familles d'origine bulgare, comme on les appelle des Roms. Donc on connaissait ces personnes et du fait qu'elles étaient en groupe, on arrivait à trouver quelqu'un pour servir d'interprète. Depuis 2-3 ans, on a de plus en plus de familles d'autres origines de l'Europe, entre autres Albanie, Kosovo, Macédoine, voire... Mais ça existait déjà précédemment d'autres pays plus lointains, l'Arménie, je pense, l'Algérie, le Maroc, Moldavie, un certain nombre de pays autres. Donc avec ces familles, c'est effectivement parfois un peu plus difficile. Il se trouve qu'il y a certaines fois des choses originales, comme je pense à des familles moldaves qui parlaient rom. Donc, on utilisait des familles roumaines. Donc, les familles moldaves parlaient en rom aux familles roumaines qui nous traduisaient ensuite en français. Donc on essaye de se débrouiller comme on peut et on y arrive.
Oui, on va même jusqu'à utiliser nos iPhones avec un traducteur, hein, même si c'est pas forcément. Voilà, on arrive même à ça.
Vous avez, moi j'ai assisté, je peux le dire, donc à votre assemblée générale lundi, et alors je vous ai trouvé à la fois remarquablement sérieux et dans votre manière d'accompagner. Bon, mais vous faites ça avec beaucoup d'amour, hein, on fait pas ça, je pense, s'il n'y a pas une envie de justice et que le droit de l'enfant soit bien appliqué, mais ça va au-delà. Et je voulais dire vraiment que tout votre travail et votre attention, c'est du sérieux, hein, c'est pas je fais ça comme ça en loose day, tout est pensé, et vous avez l'expérience maintenant. Justement, je ne sais pas si au niveau des bénévoles qui font toutes ces actions au sein de l'association, il y a beaucoup de renouvellement, mais je trouve que, enfin, ça se sent qu'il y a maintenant une expertise, on va dire entre guillemets, une expérience et une expertise qui fait que, c'est ce qu'on disait tout au début, finalement, des familles reviennent vous voir parce que voilà, vous les avez accompagnés jusqu'au bout, quoi.
Oui, tout à fait. Il y a une certaine expertise, effectivement. Tu parles de bénévoles. Ouais. Effectivement, c'est d'ailleurs un appel qu'on peut faire, c'est qu'on a besoin de bénévoles pour justement aller à la rencontre de ces familles, puisque il faut beaucoup de temps pour accompagner chaque famille et que actuellement on manque de bénévoles. Donc on donnera nos coordonnées en fin d'émission, mais n'hésitez pas à nous contacter et venir nous aider à rencontrer ces familles. Effectivement, il y a un lien qui passe entre ces familles et nous. Parfois un regret, c'est qu'une fois qu'elles sont dans le droit commun, comme on dit, quand elles ont un appartement, on n'a plus le temps d'aller leur dire bonjour. Et c'est un peu un regret que de ne pas pouvoir continuer à les contacter comme on aimerait le faire, puisque malheureusement, y a toujours d'autres qui sont à la rue et qui ont besoin de personnes pour les aider. Sinon, elles attendront un mois, deux mois, trois mois sans pouvoir avancer dans leur démarche.
En fait, je voulais souligner donc votre sérieux dans cette affaire, mais aussi, vous avez bien exprimé quand même aussi la volonté des familles, parce que ça peut ne se faire que parce que les familles le veulent aussi et sont attachées à l'évolution de la scolarité de leurs enfants. Il y a une volonté, c'est-à-dire que c'est pas simplement une action qui est faite que dans un sens.
Tout à fait. Enfin, les familles ont... On trouvera toujours des familles qui ne souhaitent pas scolariser leurs enfants, mais même dans le monde, dans les bons français, comme on peut dire. Mais c'est exceptionnel. La majorité des familles nous relance et quand on n'arrive pas à les scolariser, on est désarmé, on est démuni. Comme je le disais, au niveau du collège, au niveau des lycées, pour nous, c'est très difficile de rencontrer une famille. Et puis, il y a le garçon qui est, par exemple, ou la fille qui est en âge de collège, qui nous dit, et pour moi, t'as trouvé quelque chose? Non, on attend toujours. Et comme je le disais, un exemple tout à l'heure, depuis le mois d'avril, cet enfant qui a été positionné le 9 avril, aujourd'hui encore, il est dans une structure d'hébergement, donc il n'est plus à la rue. Il a demandé à l'assistante sociale qui s'occupe de cette famille dans l'hébergement, où est-ce que j'en suis dans ma scolarité? Comment on peut avancer? J'étais contacté pour ça. Et l'inspection nous a dit, il faut attendre septembre. Donc, c'est un petit peu complexe tout ça pour ces enfants. Et surtout que quand ils commencent à avoir 15-16 ans, pouvoir démarrer sa scolarité, en attendant encore des mois, c'est une catastrophe. On parlait aussi de... Donc, tout à l'heure, tu parlais de ces relations qu'on a avec les familles. Je crois qu'on peut élargir aussi, depuis 2-3 ans, on souhaite former, enfin plus exactement, il y a un certain nombre de familles qui ont quitté la rue, qui sont maintenant en appartement, qui ont connu la rue, qui sont des experts dans l'art de vivre dehors. Et on veut utiliser et on utilise cette expertise pour des formations Actuellement, on a déjà eu l'année dernière et cette année une journée de formation avec une école de travailleurs sociaux. Et ces formations donc sont assez originales et leur particularité, c'est d'associer différents corps de métier. Donc d'une part une personne qui fait partie de l'école, donc un professionnel de l'enseignement, un travailleur social qui connaît ses familles et qui aide ses familles, bien sûr des bénévoles de classe, un chercheur qui cherche qui fait des recherches sur ces populations pour apporter un éclairage un peu plus lointain, si on peut dire, et puis surtout des personnes ressources ou des personnes tiers, c'est-à-dire des personnes qui sont expertes dans l'art de vivre à la rue, puisqu'elles y ont passé plusieurs années. Et c'est des personnes qui non seulement sont expertes, mais qu'on considère comme des professionnels, donc qui sont salariés, c'est un grand mot, mais payés pour ces formations. Et au niveau de ces formations, il y a une relation qui se crée entre nous et eux, pour ces personnes, pour qu'elles puissent apporter leur expertise et pouvoir communiquer avec les personnes qui sont formées. Donc actuellement, il y a eu déjà deux formations dans une école du Sud-Est, et on souhaite élargir tout ça dans différentes autres directions, en particulier pour les travailleurs sociaux. De mémoire, on doit avoir une journée de formation prévue en septembre pour ça. Et on souhaite aussi élargir au niveau de l'inspection académique, du corps enseignant, aussi bien des enseignants que des accueillants ou des personnes qui sont dans les structures scolaires, justement pour sensibiliser sur comment on peut vivre en extrême précarité, et éviter cette peur de l'inconnu, de non savoir de comment vivent ces personnes. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait certaines fois des difficultés lorsque une famille vient s'inscrire. Il y a effectivement la difficulté de la langue, mais il y a aussi la difficulté d'avoir en face de soi quelqu'un dont on sait qu'il vit autrement. Et c'est difficile de pouvoir échanger avec cette personne. Donc, le fait de savoir comment ils vivent, a priori, permettrait de mieux, d'avoir un meilleur échange, de pouvoir mettre des relations plus facilement entre tout le monde.
Je pensais, oui, parce que finalement, c'est peut-être bien aussi d'associer les enseignants qui accueillent ces enfants dans leur classe, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que quand on est une famille ou avec un logement précaire en hôtel ou sous une tente, etc., pour suivre la scolarité de manière normale, c'est-à-dire, bon, je sais pas si on fait encore des devoirs aujourd'hui, peut-être que ça n'existe plus, mais je veux dire pour suivre, pour avoir son cahier, pour se retrouver dans son, enfin, pour pouvoir étudier, etc., c'est pas des conditions tout à fait idéales. D'autant que quand je dis ça, les conditions, c'est pas simplement des conditions pour étudier, c'est peut-être aussi des conditions pour dormir, la santé, etc. Tout ça, l'environnement même peut peser lourdement sur la qualité de la scolarité de l'enfant, malgré toute sa bonne volonté, je veux dire.
Mais tout à fait, hein. Vivre dans l'extrême précarité, c'est aussi toute la dangerosité de la rue ou du bidonville. Hein. Quand à 5h du matin, débarquent des CRS pour liquider une partie d'un bidonville, je veux dire, ce sont des enfants qui ils ne peuvent pas s'habituer à cette violence-là. Moi, je me rappelle du coup avoir accompagné ces enfants qui étaient attendus à l'école. Je les ai accompagnés comme d'autres matins, je les ai eu accompagnés jusqu'à la maîtresse. Et à la maîtresse, j'ai dit, écoutez, mais si vous pouviez les faire dessiner ce qu'ils ont vu quand la police a fait leur descente, ce serait peut-être bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et effectivement, il a ressorti des dessins où on voyait des choses quand même pas très ordinaires pour l'ensemble de tous les enfants français, excusez-moi, mais bon, c'était pas très commun. Donc effectivement, c'est un environnement très, très peu facilitateur de l'apprentissage Et pourtant, ce sont les enfants de demain. Donc, c'est les, enfin, ces enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Donc, il faut vraiment qu'on se penche sur cette question-là, et tous ensemble. Je veux dire, c'est pas qu'une question d'une association avec des bénévoles, voilà, et volontaires là-dedans. Il faut qu'on aille au-delà, et pour ça, on se fait médiateur avec la DSDEN, on rencontre tout le monde enseignant dans des espaces de réunion pour prendre la question de cette scolarité réellement à bras le corps.
Oui, enfin, justement, pour rebondir sur ce point, il y a deux éléments. Un premier, c'est sur l'assiduité. Jusqu'à maintenant, classe, l'objectif, c'était que les enfants aient accès aux droits. Et depuis maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que cet accès au droit à la scolarisation, ce ne soit pas simplement arriver à la scolarisation, c'est avoir une véritable scolarisation qui permette aux enfants d'apprendre. Jusqu'à maintenant, on était un petit peu seulement sur la scolarisation. Et dans ce cadre-là, en particulier au niveau du collège, on a demandé à l'inspection académique, enfin la DSEN, de monter un groupe de travail sur l'assiduité, sur le résultat de la scolarisation, sur comment les enfants peuvent rester scolarisés tout au long de leur parcours. Parce qu'on constate que malheureusement, un grand nombre d'enfants n'arrivent pas à avancer comme ils devraient. Il y a d'une part, comment dire, des ruptures dans la scolarisation, il y a le décrochage scolaire dont on parle, et donc il y a tout un groupe de travail qui a démarré cette année, en début septembre, qui a comme objectif justement d'essayer de réfléchir sur l'ensemble de ces problématiques. Ce que l'on souhaite, c'est l'orienter sur le collège pour pas être trop ouvert, mais ce qui n'empêche pas d'essayer d'aller au-delà. C'est un groupe qui démarre. L'objectif, c'est pas d'arriver à un résultat du jour au lendemain, mais de prendre son temps. Juste pour situer, c'est un groupe sur différentes structures. Donc il y a des maîtres de conférences, des professeurs de Lyon 1 et Lyon 2. Donc maîtres de conférences, par exemple, en sciences de l'éducation, en psychologie interculturelle, en psychologie auprès des mineurs isolés ou des mineurs non accompagnés. Il y a aussi en linguistique. Et puis, donc d'une part, des maîtres de conférences, des professeurs, Lyon 1, Lyon 2, d'autre part des chercheurs, politologues et collaborateurs avec l'ODENOR, qui est l'Observatoire du non-recours au droit. Et ensuite, bien sûr, des personnes de l'inspection académique et puis quelques étudiants qui sont avec ces maîtres de conférences. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'aller au-delà de la scolarisation pure et dure, mais de vraiment que ce soit une véritable scolarisation, c'est-à-dire un véritable apprentissage.
Donc ça, c'est vraiment nouveau, hein, que ça soit les formations qui sont proposées, voilà, ou qui vont être proposées à différents intervenants et aux bénévoles, hein, parce que l'idée, c'est de former de nouveaux bénévoles avec en particulier des personnes issues même de l'ancienne précarité, hein, c'est bien ce que j'ai compris.
Tout à fait, d'ailleurs j'ai oublié de dire, dans le groupe de recherche avec l'inspection académique, la DSDEN, on souhaite aussi qu'il y ait des personnes ressources, des personnes pairs qui participent à cette étude.
Donc les formations et l'étude pour avoir une vision finalement globale, globale sur la difficulté d'un enfant qui vit dans un squat ou dans un hébergement précaire, que c'est pas simplement l'inscription scolaire qui est important, mais c'est une prise en compte globale de sa situation. Hein, c'est bien ça. Hein,
tout à fait, oui.
Alors, je voulais, parce que on a encore 5 minutes, je voudrais juste que vous parliez des petites animations, parce qu'il y a des choses aussi très, très, très positives, très colorées qui peuvent se passer dans le cadre des animations proposées par l'association Classe, en relation en particulier, je pensais à art et développement.
Oui, donc il y a un partenariat qui se fait avec Art et Développement, qui est une association qui fait la promotion du culturel. C'est essentiellement des ateliers peinture, mais aussi agrémenté d'une animation autour des livres. Notamment, c'est plus facile pour les plus jeunes enfants d'accéder peut-être à la lecture que à la peinture encore que. Donc, effectivement, avec Art et Développement, on a un partenariat qui réside dans des ateliers qui ont lieu directement sur les bidonvilles à une fréquence à peu près d'une fois par semaine, et ça crée une dynamique assez surprenante à l'intérieur de chacun de ces pseudo-villages, hein, mais plaît davantage de dire village que bidonville, hein, on peut rêver un peu en disant village. Voilà, donc même les familles peuvent être conviées à participer à ces ateliers de peinture. Toujours est-il que lorsqu'on parle avec les animateurs d'art et développement, ou même nous, ce que l'on en voit, c'est que ces instants de partage autour de quelques pinceaux et quelques couleurs laissent véritablement des traces. Des traces, les enfants et nous, mais aussi les parents et nous. Parce que bon, c'est un moment de simple partage, c'est gratuit, ça a un commencement, ça a une fin, mais ça laisse des traces au niveau des cœurs, vraiment.
Et puis peut-être un point supplémentaire, c'est que c'est ouvert aux bénévoles de classe, bien sûr, mais c'est ouvert aussi à toute personne qui veut bien participer à ces ateliers, puisqu'on a besoin de personnes pour encadrer, et ça permet à un grand nombre de personnes de découvrir cette vie à laquelle on passe à côté, mais on n'ose pas, et avec plus ou moins de raison, on n'ose pas venir. Donc les personnes rencontrent ces familles, échangent normalement, il y a toute des contacts qui se créent et l'occasion de vivre ensemble.
Alors, oui, et puis j'ai envie de dire, le dernier atelier qui a eu lieu, c'était assez surprenant, le nombre d'étudiants qui ont pu y participer et qui ont raisonné là-dessus, même à un niveau intéressé, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont fait un travail qui était en lien avec leurs études. Ils ont fait un travail, et c'était vraiment très très riche, je crois, pour tout à chacun.
Alors, il est temps peut-être de rappeler comment on peut s'inscrire dans les actions de l'association, comment on peut la contacter.
Oui, oh ben rapidement, il y a une adresse mail classique, donc c'est classe. C'est le nom, le collectif lyonnais pour l'accès à la scolarisation et au soutien des enfants des squats, donc classe avec un S, suivi de 069, tout attaché, @gmail.com. Donc classe avec S, 069, @gmail.com. Il y a aussi un blog qui commence par la même chose, classe069.blogspot.fr. Et puis éventuellement, il y a aussi Facebook, association classe 69. Voilà des moyens d'accéder. Et puis sur ces différents lieux, enfin sur le blog, sur Facebook, vous avez d'autres contacts qui permettent de voir d'une part ce que l'on fait, d'avoir plus de détails, et puis de pouvoir contacter.
Éventuellement participer aussi financièrement.
Ah ben, bien sûr.
Et que le local qui permet à chacune de nos réunions d'avoir lieu se trouve dans les locaux de la Ligue des Droits de l'Homme, cours de
près de la gare Perrache. Voilà. Et je disais financièrement, puisque les cotisations et les dons peuvent aider justement à la prise en charge des abonnements TCL.
Tout à fait,
pour ces enfants.
Tout à fait. Il y a un petit dernier point, si oui. On a encore une petite seconde, allez. On a oublié. Important, c'est que classe, comme on l'a expliqué, on a un besoin de se développer. Donc il y a tout un projet actuellement de pouvoir embaucher une personne avec des projets importants, avec la Fondation Abbé Pierre d'un côté, la Fondation de France de l'autre. Et donc on est en train de monter quelque chose pour aller plus loin encore.
Et pourquoi pas avec un financement participatif peut-être?
Ah ben on est en train de chercher, donc j'ai donné deux financements, on essaye aussi.
On donnera l'information à la rentrée quand s'il y a des choses plus abouties.
Oui, il y aura
rentrée,
sûrement des choses plus abouties.
On donnera l'information sur 102.2 qui est maintenant, l'émission se termine. Normalement, je ne sais pas s'il y a Radio Canu Info, Info Canu, mais non. Et ben on vous dit au revoir, merci à tous les deux. Et on va lancer le générique de fin d'émission.
Mon quartier est banal, des mômes jouent dans les rues. Y'a des filles, y'a des gars qui vont bras dessous, bras dessus. Là-bas, il y a le canal, sur les quais on cavale. Y'a les buttes d'où l'on voit, tout Paris est au-delà. L'accordéon dans l'air, une nostalgique. C'est pour moi la plus belle des musiques. Je ne sais pas pourquoi je me sens le cœur nu en écoutant l'accordéon qui pleure dans les rues. Mon quartier est banal, cinéma, petit bal, des couples d'amoureux terriblement heureux. Les gens qui m'ont connu quand j'étais tout petit, les gosses que je connaissais qui maintenant ont grandi. L'accordéon gémit le long des rues, le vieil aveugle chante les morceaux connus. C'est comme si c'était mon enfance perdue que j'entends tout le temps se plaindre dans les rues. C'est comme si c'était mon enfance perdue que j'entends tout le temps se plaindre dans les rues.
Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.